J'en ai parlé un petit peu, je pense que c'est la semaine passée ou il y a deux semaines. J'écoutais durant le temps des fêtes un documentaire sur l'anxiété chez les jeunes. Puis je l'avais enregistré parce que vous l'avez vu, tu sais, dans le guide, des fois, tu vois des émissions qui t'intéressent. Puis j'en ai un anxieux, moi, qui entame son secondaire, puis tu sais, qui va entrer dans l'adolescence, puis qui a des problèmes d'anxiété.
Ouais.
Fait que j'écoute ça et durant le reportage, il y a un spécialiste qui parle et qui commence à parler de la génération Z. Comme étant une génération, là, tu sais, les jeunes là, qui sont fin secondaire, début cégep, université, comme étant une génération qui a moins d'amis, moins de contacts sociaux, moins de relations sexuelles, presque dans l'histoire de l'humanité. Puis là, je me grattais la tête, puis je regardais mon jeune. On est-tu en train de scraper une génération? Et pourquoi c'est en train de se produire ainsi? C'est-tu les réseaux sociaux? C'est-tu les téléphones cellulaires?
Ouais, c'est ce que j'avais
dit. Fait-tu fausse route sur tout ce qui se passe actuellement dans ce qu'on appelle le progrès, là? Mm-hmm. On est-tu en train de faire fausse route avec nos jeunes et on est-tu en train de les garrocher dans un précipice? Et c'est la grande question que j'avais, puis je le trouvais tellement intéressant, je dis, gars, on va l'inviter en nombre, qu'il vienne nous parler de cette génération-là et de nos jeunes qui poussent actuellement comme société. Est-ce qu'on les encadre bien? Est-ce que notre système scolaire est bon? Est-ce que les téléphones intelligents, on manque de recul et de prudence par rapport à ça? Ça et les réseaux sociaux. Samuel Vessière, donc, était cet intervenant-là. Il est professeur au département de psychiatrie de l'Université McGill. Il est avec nous ce matin. Monsieur Vessière, bon matin.
Bonjour.
Tout d'abord, j'ai adoré vos commentaires dans ce reportage qui était fascinant. Et si je comprends bien votre historique, vous avez voyagé à travers le monde pour étudier la jeunesse dans différentes cultures?
Oui, effectivement. Écoutez, mon doctorat était dans l'anthropologie. Après, j'ai fait des études postdoctorales en sciences du comportement. Maintenant, je suis professeur de psychiatrie et j'ai travaillé beaucoup, surtout sur la résilience. Donc, j'ai travaillé, par exemple, avec les enfants des rues au Brésil, avec les populations autochtones un peu partout dans le monde. Et maintenant, je me suis penché sur la question de l'épidémie d'anxiété dans la génération Z.
Est-ce que nos jeunes, ici au Québec et au Canada, sont différents des jeunes ailleurs dans le monde?
Oui, je dirais que pas seulement au Canada, c'est quelque chose qu'on remarque en Occident et surtout dans les milieux socio-économiquement assez élevés, on a identifié ce qu'on pourrait appeler une crise de la fragilité, donc une baisse de la résilience, une montée de l'anxiété. Donc c'est sûr que je dirais que comparé, par exemple, aux pays développés, les jeunes au Québec souffrent de plus d'anxiété, oui.
Pourquoi ça se passe comme ça?
Écoutez, on ne sait pas vraiment. Il y a plusieurs hypothèses qui sont liées à plusieurs facteurs. Alors, bien sûr, il y a les changements de conditions économiques et climatiques. Il y a l'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux, de l'Internet. Il y a la montée de la solitude, l'individualisme. Mais il y a aussi un autre facteur au niveau de la surprotection des enfants. Alors, tant par les parents que à l'école. Et puis, en même temps, on voit une montée de la culture d'une obsession du sécuritaire. Et puis aussi une espèce de culture de la victimisation. La montée de la polarisation idéologique. Donc voilà, il y a tous ces facteurs un peu qui nous amènent une constellation de symptômes qui pourraient nous amener à ce nouveau syndrome de l'anxiété, de la détresse chez les jeunes.
OK. En gros, nos jeunes ne vivent pas assez ou peut-être ne vivent pas assez d'épreuves dans leur jeunesse, ne se blessent pas assez, ne seront pas assez confrontés à leurs opinions, leurs idées par rapport aux autres. Et en intervenant constamment, on ferait peut-être fausse route.
Je pense que c'est ça. Généralement, dans beaucoup de cultures, le rôle des parents, c'est de préparer les enfants pour le monde. Mais maintenant, on a une culture qui prépare le monde pour les enfants. Donc, les enfants sont très rarement laissés seuls. Ils ont rarement l'opportunité de résoudre des problèmes tout seuls. Ils sont vraiment surprotégés. Ils passent beaucoup plus de temps à la maison, avec leurs parents, tout le temps sous supervision par rapport aux générations passées. Et ça, on se rend compte que c'est vraiment un désastre au niveau de leur opportunité d'apprendre à s'autoréguler puis à résoudre des problèmes par eux-mêmes.
Ouais. Est-ce que le système scolaire est rendu trop adapté? Parce que justement, vous parlez d'encadrement, mais maintenant, il y a un professeur pour tout, il y a un spécialiste pour tout dans les écoles. Il y a des TES qui s'occupent des séances de jeux libres dans les cours d'école, justement pour régler les conflits avec les enfants. On en fait-tu trop?
Ben c'est ça. C'est évident que dans un sens, c'est un grand progrès de mieux comprendre les troubles d'apprentissage, par exemple, les besoins individuels des étudiants, et puis d'avoir des pédagogies qui sont adaptées à ça. Mais maintenant, on en est rendu à des demandes constantes d'accommodation raisonnable, où les enfants et les jeunes ont encore vraiment rarement l'opportunité d'apprendre à faire face aux épreuves du monde. Donc je pense vraiment que nos écoles surprotègent les enfants. Et d'ailleurs, on le remarque par exemple dans les rankings internationaux des résultats de l'Organisation économique pour le développement et la coopération, on se rend compte que le niveau scolaire en Occident, mais au Canada aussi, baisse depuis presque 10 ans.
En tant que parent, oui. Personnellement, je vois ça puis je trouve ça inquiétant. Mais c'est quoi les pistes de solutions, justement, à partir d'aujourd'hui, si on se rend compte que peut-être on a trop surprotégé notre enfant, c'est de commencer à lâcher prise?
Ben, c'est ça, c'est de faire confiance à la résilience de nos enfants. On est quand même l'espèce humaine. On a évolué dans des conditions qui étaient vraiment très dangereuses, très incertaines. On est quand même généralement très fort à pouvoir s'adapter et être flexible. Donc c'est de savoir lâcher prise, de savoir faire confiance, d'avoir des stratégies, par exemple, entre parents, de dire « bon, ben, on va laisser nos enfants sortir un peu, on va lâcher prise un peu », et puis aussi de se déconnecter des réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment donc la surconnexion aux réseaux sociaux, ça fait vraiment monter l'anxiété. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement à la maison, par exemple, en retournant avoir des rituels de déconnexion, de dire bon, mais pas d'électronique à table, ou alors pas d'électronique le samedi, des choses comme ça. Puis oui, de passer plus de temps dehors. C'est des solutions vraiment très simples. Je pense, demandant à nos grands-pères et nos grands-mères, eux, ils savaient comment élever les enfants.
Oui, mais ce que je trouve terrible, c'est que là, chaque fois qu'il y a des enfants qui arrivent avec des conflits, on a toujours tendance à vouloir, je donne un exemple, c'est passé ici ou ça, dans l'autobus scolaire, je vais appeler à l'école, je vais tenter de faire régler ça. Dans le fond, le message, c'est laissez donc vos enfants régler leurs propres conflits.
Ben oui, c'est ça. Et c'est la même chose. Toutes les politiques de zéro tolérance pour le bullying à l'école, c'était bien, c'est sûr. On ne veut pas causer de la douleur physique à nos enfants. Mais maintenant, de plus en plus, il y a une idéologie selon laquelle, par exemple, les mots et les paroles nous blessent autant que les coups et les blessures. Et ça, je pense que c'est faux. Je pense qu'au niveau psychologique, c'est faux. C'est un mensonge de dire ça aux enfants. On ne leur fait pas du bien.
Donc, on devrait peut-être laisser les enfants se forger une carapace.
Absolument.
Vous êtes quand même un des rares qui appuie ce genre de thèse-là. Je trouve ça super intéressant parce que c'est pas le discours qu'on entend habituellement au Québec, mais évidemment, c'est pas toujours non plus des experts qui se prononcent dans ce genre de situation-là. J'en reviens au smartphone et aux réseaux sociaux. Donc, il faut déconnecter, mais depuis quand ou à partir de quelle génération on voit véritablement les ravages? C'est-tu tout récent ou déjà depuis une dizaine d'années, là, on voit la descente aux enfers que ça peut occasionner?
Ouais, je pense que le cut-off, c'est 1994. Donc, les jeunes qui sont nés après 1994 n'ont jamais connu le monde sans Internet. Et puis, à partir du moment où ils étaient rendus au secondaire, ils avaient déjà des smartphones, ils avaient déjà l'Internet mobile. Donc, ils étaient tout le temps connectés. Et on voit que c'est cette génération-là qui souffre des troubles d'anxiété les plus élevés. Donc, il y a une très forte corrélation. Est-ce que les smartphones sont la cause? On peut pas le déterminer, mais c'est sûr que c'est un des facteurs.
OK. Dans votre analyse, j'entendais donc, puis j'en ai parlé en introduction, la génération Z, ce sont les jeunes qui ont le moins d'amis, le moins de réseaux sociaux, de réseaux sociaux en fait réels, le moins de relations sexuelles. Et la dernière partie me fait mal parce que moi, j'ai des jeunes, j'en ai des jeunes de 8, de 11 et de 12 ans. Est-ce que ces statistiques-là vont également les toucher?
Ben écoutez, on ne sait pas vraiment, mais on sait que les jeunes interagissent de moins en moins entre eux face à face parce qu'ils sont tout le temps connectés. Donc pour un adolescent à Montréal, par exemple, de 18-19 ans, même s'ils ont le droit de sortir, souvent le vendredi soir, ils s'envoient des messages jusqu'à minuit à se dire « Ah, ben, je sais pas, ouais, je vais peut-être aller à cette fête, je vais peut-être aller à ce concert. » Mais à la fin de la journée, ils restent à la maison. Donc les prédictions les plus pessimistes, c'est sûr, tendent à croire que le problème va s'empirer avant de s'améliorer.
La génération Z, quel type d'adulte ça va être, selon vous?
Écoutez, si vous parlez aux enseignants du cégep universitaire, ou alors ils vous diront que ce sera sans doute une génération assez fragile. Bon, dans l'ensemble, hein, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais peut-être aussi assez imbus d'eux-mêmes, assez difficiles à gérer, une génération qui seront vraiment peut-être pas très bien préparées à faire face aux épreuves de la vie de tous les jours et du travail, une génération qui aura sans doute du mal à gérer les conflits, à gérer les conflits interpersonnels, parce que on a trop accommodé leurs préférences, parce qu'on a trop accommodé le monde pour eux.
Samuel Vessière, merci beaucoup de nous avoir parlé. Très intéressant.
Ça fait très plaisir. Passez une bonne journée.
Samuel Vessière, qui est un spécialiste, donc qui est professeur au département de psychiatrie de l'Université McGill, mais également anthropologue, qui a fait le tour du monde, qui a étudié les enfants de partout. Et le constat nord-américain, là, vous l'avez. Là. Vos enfants, moins d'amis, moins de contacts sociaux, moins de relations sexuelles. Hey, le dernier me fait mal.
Oui, mais en bas âge, c'est sûr que ça peut. C'est moins tannant, là, mais à long terme.
Je parle à long terme. Mm-hmm. Tu sais, ouais. Notre adolescence où nous, là, on allait se réunir le vendredi soir, puis on allait au Pic de Sable se faire un feu. Là,
les amourettes.
Tu sais, les amourettes, les.
Mm-hmm. Ouais.
Ce contact humain-là, là, ils l'ont pu. Ils l'ont pu. Remplacé par des téléphones cellulaires. Et, puis, l'autre affaire, ça fait longtemps que je le dis, là, arrêtez d'intervenir dans tous les conflits. Là. Arrêtez d'empêcher les jeunes de se tester. C'est clair, net et précis que vous les protégez malheureusement de leur développement, c'est-à-dire de se faire une carapace, d'apprendre à gérer les autres. Il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours un intimidateur dans la vie. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous piler sa tête, quelqu'un qui va vous faire des vacheries. Il faut apprendre à dealer avec, il faut apprendre à vivre avec ça.
Rendu là, c'est même pas de la protection, c'est de la surprotection.
Exactement.
Hey, juste avant, oui. Je veux te dire, il y a quelque chose qui se passe allemand, je sais pas quoi, là, okay. Mais on reçoit des dizaines de textos, des messages, des courriels, pompiers, pinces de désincarcération, ambulance pompiers, 3 camions de pompiers, 6 autos de police, ambulance. Écoute, on est en train de faire des petites recherches à savoir qu'est-ce qui s'est passé.
Route 169, secteur 5 heures de Marie, donc visiblement un accident, là, assurément. Là. Coin du rang 1. C'est ce qu'on nous dit, chemin des petits.
Mais là, je vois qu'il y aurait un feu aussi. Là. C'est pour ça que je suis comme. Je sais plus là.
OK. Alors, dossier à suivre. On va aller aux informations. On vient dans quelques minutes, 7h53.
On revient tout de suite après la pause. 95.7, Saguenay. Le show du matin.